La substance, au contraire, est du côté de l'hécatome. Alors, il y a là toute une série d'affirmations qui sont intéressantes, je vais simplement vous les relever ici. L'opposition, donc, entre l'universel et la substance. Ça nous fait mieux comprendre ce que c'est que l'universel et la substance. La philosophie première regarde en premier lieu l'ousia. Si Aristote montre que la philosophie première regarde, ce que nous appelons la métaphysique, la philosophie première regarde en premier lieu l'ousia, parce que le ti esti de l'ousia et le ti esti du toam s'identifient. Rechercher ce qu'est l'être et rechercher ce qu'est l'ousia, c'est la même chose. C'est très intéressant comme affirmation. C'est du reste difficile à bien comprendre, mais c'est intéressant pour voir ce que c'est que pour Aristote la philosophie première. Alors Aristote dit que la recherche du ti esti du toam ou la recherche du ti esti de l'ousia, donc la recherche de ce qu'est l'être et la recherche de ce qu'est la substance, c'est la même interrogation. Il dit ça au début du livre des Temps. C'est la même interrogation. Autrement dit, rechercher, la philosophie première essaie de chercher l'arché, le principe. C'est de rechercher la cause. Si nous essayons de comprendre ce que c'est que l'être, il faut comprendre les principes de l'être. Tant qu'on ne connaît pas le principe et la cause d'une chose, on ne la connaît pas. La grande chose d'Aristote est seconde analytique. Tant que vous n'avez pas saisi une cause propre et un principe propre d'une chose, vous ne la connaissez pas. Donc, s'il y a une science du toon, c'est-à-dire de ce qui est. Il faut traduire le toon par ce qui est. S'il y a une science de ce qui est, du toon en tant qu'être, tant que je n'ai pas saisi l'arché et la cause, donc le principe et la cause de ce qui est comme être, je n'ai pas la science de ce qui est. Puisque la connaissance scientifique consiste à connaître les principes propres et les causes de ce que nous cherchons. On cherche le principe du vivant, on cherche le principe de ce qui est mu, on cherche le principe de ce qui est comme être. Tant que je n'ai pas saisi le principe propre de ce qui est comme être, je ne sais pas ce qu'est la philosophie première. Puisque la philosophie première essaie de comprendre ce qui est en tant qu'être. Rechercher le principe propre de ce qui est, c'est rechercher l'ousia. Puisque l'ousia est principe de ce qui est. Mais il faut connaître l'ousia comme principe pour vraiment comprendre le principe de l'être. Et c'est pour ça que le tiesti de l'ousia et le tiesti du toon, c'est la même chose. Et là, il y a quelque chose d'intéressant au point de vue de la pensée d'Aristote, au point de vue de la philosophie première. Et alors, Aristote, dans cette recherche du tiesti de ce qu'est l'ousia, montre que l'ousia ne peut pas être l'universel, ne peut pas être le catholou. Pourquoi? Parce que l'universel s'oppose au principe d'être, dans le sens plénier. L'universel ne peut pas être cause et principe de la réalité. Il ne peut pas être cause propre de chaque chose. Parce que l'universel est justement ce qui existe, eu par qu'elle, ce qui existe dans plusieurs choses. Pifuquel, il y a une expression très jolie ici, où il dit l'universel, eu par qu'elle, pifuquel, pléiocine. Donc l'universel, c'est ce qui existe naturellement dans plusieurs. Si l'universel, c'est ce qui existe c'est ce qui existe naturellement dans plusieurs, il ne peut pas être la substance. Puisque la substance, c'est ce que chacun est par lui-même. Donc si la substance est ce que chacun est par lui-même, il y a une opposition entre la substance et l'universel. Donc, j'aime ce texte-ci, parce que ce texte nous fait comprendre que pour Aristote, le catholou, c'est ce qui eut par terre.
ce qui, uparkai, c'est très difficile à traduire, hein. Uparkai, c'est ce qui existe dans, ce qui est présent. Uparkai, c'est une idée de présence. Ce qui est présent dans plusieurs, et ce qui est présent, Aristote ajoute, pesutel. L'expression pesutel d'Aristote est une expression que nous avions déjà vue à propos de l'universel, ce qui existe naturellement. Il est de l'essence de l'universel d'exister en plusieurs. Donc l'universel, ce n'est pas seulement celui qui est épi, pléosine, ce n'est pas seulement celui qui est au sujet de plusieurs, mais c'est celui qui est dans plusieurs. Ce qui existe dans plusieurs. Je prends cette seconde relation, parce qu'elle est là. Aristote dit encore, donc 1038b16, l'ousia est dit ce qui n'est pas alors selon un sujet. L'ousia ne peut pas être dit d'un sujet, puisque l'ousia est sujet, donc il n'est pas dit d'un sujet. Alors que le katolou est dit, l'égétagne, kata upo kaimenon kinos. Alors ici, vous avez le kata. Troisième expression. Oui, c'est quand même très curieux, hein, de voir ces différents aspects du katholou. Enfin, je résume. Vous voyez bien. Il y a le katholou, se dit ici, au sujet de plusieurs. Le katholou se dit uparkai, existant en plusieurs. Le katholou se dit kata, selon. Vous avez donc ces trois expressions différentes. C'est toute la souplesse, évidemment, du langage d'Aristote. Alors, le kata se dit selon le sujet, à l'égard du sujet. Il est dit épi, c'est-à-dire qu'il est l'attribut au sujet de quelque chose. Il uparkai, pesutel, il existe naturellement en plusieurs, et il est selon. Je crois que ce sont les trois expressions qu'Aristote prend par rapport au katholou. Ça montre bien que le katholou a des relations différentes à l'égard du singulier. Je note encore, toujours dans le même lieu, dans le livre de Zeta, 1038b16 et suivant, mais l'universel n'est pas inclus dans le toti eneinai. C'est une enu parkai. L'universel n'est pas inclus dans le toti eneinai, comme l'universel dans l'homme. Mais alors, il n'est plus universel, il devient propre, s'il est substance. Oui, c'est l'objection. Enfin, l'universel, s'il n'est pas inclus dans le Totiaineinai, s'il n'existe pas dans le Totiaineinai, alors il est propre. Et là, il devient substance. De même, 38b35, rien, dès qu'il existe comme universel, n'est ousia. Dès que vous existez, uparkonton, katholou, dès que vous êtes selon ce mode universel, vous ne pouvez pas être substance. Et dernière expression, 1038a15, l'universel signifie le to toyonde, mais non le to deti. Alors ici, c'est la signification de l'universel. L'universel signifie le to Tom on dé, mais non pas le taux d'éthi. Le taux d'éthi est réservé à la substance. Le taux d'éthi exprime quelque chose de tout à fait particulier, individuel. Tandis que le taux Tom on dé, c'est la spécialisation. Donc l'universel signifie le taux Tom on dé et non le taux d'éthi. Traduisons. L'universel signifie qualitativement, et l'universel ne signifie pas le singulier individuel. Donc l'universel signifie toujours en enveloppant, on pourrait dire, si vous voulez. Il signifie en qualifiant, en attribuant. Alors c'est une signification du toyonde. Je crois que je vous ai donné les lieux essentiels. Vous pouvez aussi, au début de métaphysique, et quelque chose de moins important, c'est où il distingue les différentes sortes d'unités. Alors il montre l'unité du singulier, l'unité numérique et la certaine unité qui existe dans le catholou. Autrement dit, il y a dans le catholou quelque chose d'un. Si vous regardez dans saint Thomas, le commentaire de saint Thomas du Péri Herméléas, c'est un lieu très important, si vous avez du courage, et là ce n'est pas traduit, alors c'est assez difficile pour beaucoup, mais c'est un lieu qui est important pour ce que nous regardons maintenant. C'est pas dans le Péri Herméléas, donc, livre 10, chapitre 1, numéro 9. Saint Thomas reprend la fameuse définition d'Aristote, qui sera pour saint Thomas vraiment la définition même de l'universel, je vous l'ai dit. Universale est quod est actum natum de pluribus predicat. Je traduis. Enfin, l'universel, c'est ce qui est actum natum, ce qui est capable naturellement, il y a natum, c'est le pétuqué, c'est le pétuqué qu'on a traduit par natum, donc ce qui est capable naturellement d'être attribué à plusieurs. Ce qui est capable d'être attribué à plusieurs. De pluribus. Alors le de pluribus traduit le ici. Et alors saint Thomas précisera, il ne dit pas ce qui est attribué à plusieurs, mais ce qui est capable d'être attribué à plusieurs. Alors, saint Thomas insiste beaucoup là-dessus. C'est la capacité d'être attribué à plusieurs. Autrement dit, l'universel, ce n'est pas ce qui exerce l'attribution, mais c'est ce qui est capable de l'exercer. C'est le possible de l'attribution. Voilà ce que c'est que l'universel. Ça, c'est très important à souligner. C'est le possible de l'attribution. L'attribution, je suis dans une proposition, quand je prends le point de vue de l'attribution. Je dis tout homme est blanc. Donc je suis devant une attribution. Tandis que quand je prends le point de vue blanc, uniquement comme universel, alors je suis devant une capacité à l'attribution. Et c'est la capacité à l'attribution qui définit l'universel, et non pas l'exercice même. Et donc là, il y a une précision qui est du reste bon d'Aristote, mais que saint Thomas souligne. Vous voyez, je vous lis le texte, il dit donc, l'universel n'est pas dit « quod predicatur de pluribus », c'est « quod aptum natum predicare de pluribus », donc ce qui est capable d'être attribué à plusieurs. C'est donc ce qui est communicable. Voilà ce que c'est que l'universel. C'est ce qui est communicable. C'est la définition même de l'universel. L'universel, c'est le communicable. C'est ce qui est commun à plusieurs. Et c'est ce qui est le tikoinon commun à plusieurs, le communicable. Saint Thomas précise qu'il ne s'agit pas de nom, mais de réalité. C'est très intéressant par rapport à Occam. C'est pour ça que je dis que ce lieu est très intéressant. Il ne dit qu'il ne s'agit pas de nom, mais il s'agit de reste. C'est cela qui est signifié par le nom et qui peut se trouver en plusieurs. Alors, saint Thomas souligne donc ce qu'Aristote disait ici, parmi les réalités, les unes sont universelles, les autres sont singulières. Oui. Donc, on voit que tout de suite, la réflexion de saint Thomas est très sensible à ce fait qu'Aristote dit, parmi les réalités, les unes sont universelles, les autres sont singulières. Et il souligne donc qu'il ne s'agit pas de noms. Ne disons pas tout de suite, il y a Abélard et Daron, il ne faut pas oublier. Il y a Abélard, la fameuse querelle des universaux a déjà existé avant, et alors on disait que l'universel ne regardait que le nom. Saint Thomas dit non, l'universel ne regarde pas le nom, l'universel regarde les restes. On va voir comment. Vous dites alors, il y a des réalités universelles, c'est pas ça, mais c'est intéressant comme réaction, de voir que tout de suite Saint Thomas montre que c'est vrai. Mais Saint Thomas souligne alors un peu plus loin, au numéro 9 justement, l'universel peut être considéré de deux manières tout à fait différentes. Il peut être considéré quasi separatum de singulari, per se subsistens, position de Platon. je peux considérer l'universel comme séparé des singuliers et subsistant par lui-même. Je peux considérer l'universel selon l'essai. Secundum esse. Secundum, selon l'essai qu'il a dans l'intelligence. Position d'Aristote. Alors, vous voyez cette chose très curieuse. Il dit, l'universel n'affecte pas en premier lieu les noms, mais les réalités. D'autre part, l'essai de l'universel, c'est dans l'intelligence. Alors, je crois que là, nous avons une position qui va être très intéressante à préciser, et c'est par là que nous allons entrer dans ce petit problème de la querelle des universels. Vous voyez, ça se va pour admirablement le problème, là. À la suite d'Aristote, il pose admirablement le problème, puisque vous avez trois choses qui sont posées dans le point de vue universel. Vous avez les noms, vous avez l'intelligence, vous avez les rêves. Alors, où attribuer l'universel? Où trouver l'universel en premier lieu? Les noms, hein, on voit bien, vous avez des noms, des termes, on dira, si vous voulez. Ce sont des termes. Dès qu'on est en logique, on est toujours avec ce triangle. Hein. Il y a toujours ce triangle de force. Intelligence, non, rêve. Il faut toujours penser de cette manière triple. Il faut savoir si je suis du côté de l'intelligence, si je suis du côté de la réalité, si je suis du côté des noms. C'est la même chose. Hein. Alors, si on commence à confondre, on ne voit plus du tout. Alors, c'est l'intérêt ici de voir l'universel. Il a son essai dans l'intelligence. L'essai, selon l'essai. Il n'existe que dans l'intelligence comme universel. Mais il affecte les réalités. Il est donc fondé dans les réalités. Il y a quelque chose d'universel qui existe dans la réalité, la communauté, le koinon. Il y a quelque chose de commun. Donc il est fondé dans la réalité. C'est pour ça qu'il dit que ça, qu'il ne s'agit pas des noms, mais de la réalité. Et puis, l'universel affecte aussi les termes. Et c'est en troisième lieu. Oui. Quand il y a un triangle, vous savez, les psychologues savent très bien, les situations de triangle devant les psychologues. Hein. Les situations brillantes sont toujours des situations très périlleuses. Deux, ça va toujours, on voit la base. Ça va très bien. Mais c'est dès qu'il y a un troisième, ça va plus. Et alors, c'est une situation brillante, la question de l'universel. Je ne peux pas parler de l'universel sans faire intervenir. L'intelligence, nous, est là. C'est très sérieux. Ça, c'est une question de la réalité, c'est tout. L'intelligence, oui, je pense, mais c'est la réalité que je regarde. C'est une position simple, la position métaphysique, comparativement à la position logique. La position logique est toujours très complexe, parce qu'il y a les noms. La logique, je suis obligé de faire pas les propositions, les noms. Je ne peux pas faire abstraction des noms, je ne peux pas faire abstraction des propositions. Quand je raisonne, je communique mon raisonnement, ça fait partie de la communication, je me sers des paroles, faut bien, donc il y a les termes. Il y a l'intelligence et il y a la raison. Alors, où se trouve en premier lieu l'universel? Pour saint Thomas, je prends la position de saint Thomas. Nous prendrons ensuite la position de Abélard et de Descartes et la position de Platon. On aura des positions diverses. Une fois que vous voyez les cartes. Alors, à ce moment-là, vous arriverez à comprendre. Alors, vous avez première pour saint Thomas. L'essai d'universel se trouve dans l'intelligence, en premier lieu. C'est l'intelligence qui crée l'universel. Sans intelligence, pas d'universel. C'est ça que je il n'y a pas d'universel au niveau de l'imagination. L'imagination n'atteint pas l'universel. Hein. Vous pouvez atteindre le général, mais pas l'universel. Vous pouvez faire des. Vous avez une image, un schème. Le schème, ce n'est pas l'universel. Un schème global, le tout, c'est pas l'universel. Alors l'imagination atteint comme ça des schèmes qui me permettent de généraliser. Il y a des gens qui généralisent, mais qui n'ont jamais atteint l'universel. L'universel, il est dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui possède l'universel. C'est l'intelligence qui secrète l'universel. C'est l'intelligence qu'il faut. C'est le lieu de l'intelligence. C'est dans l'intelligence que l'universel apparaît, en premier lieu. Ensuite,
il est dans la réalité, puisque l'intelligence est en relation directe avec la réalité. Et en troisième lieu, disons-nous, c'est très amusant de voir ça. Alors, prenons le schéma d'Occam. Je crois que d'abord, nous reviendrons simplement pour essayer de comprendre. Le schéma d'Occam. Le schéma d'Occam, il est très simple, c'est que l'universel, il est dans l'intelligence aussi.
Oui, ça, Occam dit l'intelligence.
Il est dans l'intelligence, subjectivé dans l'intelligence,
dans la connaissance.
Mais il est premièrement dans le monde. En réalité, objectivé dans le nom. C'est le nom qui est universel. Mais il est quand même dans l'intelligence. On pourrait dire un et deux, si vous voulez. C'est très difficile de savoir si vraiment, premièrement dans le nom, deuxièmement dans l'intelligence, il y a une possibilité. Le point de vue, alors, entre parenthèses, la règle. Oui, vous avez plus qu'une position. La position des trois disparaît. Il n'y a plus que la position intelligence et non. Et c'est pour ça que dans certains textes d'Occam, on a l'impression que c'est le non. Dans d'autres textes, c'est l'intelligence. C'est très, très difficile. J'avoue que c'est difficile, Occam. Hein, c'est pas commode à regarder. Et c'est complexe. Alors, on a cette espèce d'aller-retour. Le non et l'intelligence. Parce que le non n'existe que si l'intelligence est évidemment des noms. Mais au fond, on a quelquefois l'impression que c'est vraiment les noms sont, il dira qu'il nous dira, les noms sont universels et singuliers, comme une spécification tout de suite. Le nom singulier est universel. Et puis l'intelligence, eh oui, l'intelligence qui fournit le nom. Mais au fond, c'est comme ça. Le reste, la réalité, rien du tout. Pas de fondement dans la réalité. Ça, je vous montre très lointain. Donc l'universel est une création d'intelligence factice. C'est l'intelligence qui universalise. On se demande jusqu'où ce n'est pas le point de vue de la représentation. Je me pose la question. Je pense que c'est tout à fait le même schéma que un point de vue d'un schéma universel, d'un schéma général qui synthétise. Je peux synthétiser. Je peux envelopper. Je peux mettre au-delà de toute une série d'individus, prendre quelqu'un qui va englober l'ensemble. C'est presque ça. C'est presque le globalisme, si vous voulez, pas, dans le nom qui résume tout. Si je prends la position de Platon, vous voyez, c'est la position triangulaire, donc elle est parfaitement chez saint Thomas et chez Aristote. Je crois que chez Occam, nous avons une situation uniquement de intelligence et non. Et que l'universel apparaît presque en premier lieu dans le nom. Chez Platon, qu'est-ce qu'il existe alors? Chez Platon, l'universel, c'est dans l'intelligence les formes. L'intelligence et les formes, et alors dans la réalité, il y a une participation. Mais c'est cette participation. Je pense que la réalité singulière, mais c'est dans l'intelligence et les forces. Et dans le nom participe lui aussi d'une certaine manière, mais c'est très secondaire. C'est pas ça qui intéresse du tout Platon. C'est pas, au fond, la question qui intéresse Platon, c'est l'universalité des forces. Et là, trouve l'universel est vraiment premier lieu. C'est affirmé d'une façon très nette. Et tandis que chez Occam, encore une fois, nom et intelligence là, ça va faire un blocage puisqu'il n'y a plus de concept et donc l'intelligence connaît, l'intelligence dès qu'elle connaît profère un nom. Tout de suite. Sans le nom, il n'y a pas d'intelligence. Donc les deux. Et alors je dirais que c'est là où se termine toujours la connaissance, c'est dans le nom. Donc on peut dire que le point fort, c'est le nom. Le point fort chez Platon, c'est l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a une opposition si violente entre Platon et Occam. C'est l'opposition la plus forte entre Platon et Occam, parce que d'une certaine manière, Platon, c'est le point de vue purement de l'intelligence, chez Occam, c'est le point de vue du nom. Chez Platon, le fondement de l'universel, c'est la forme qui est dans l'intelligence. Chez Occam, le fondement de l'universel est purement fictif.
y a des choses qui ne créent pas pour le besoin de la loi. Comme fonction, l'universel devient uniquement fonctionnel. Je crois que chez Octave, l'universel tend à devenir uniquement fonctionnel et représentatif. Mais il n'a plus de fondement. Tandis que chez saint Thomas, alors nous allons revenir dans la position de saint Thomas, n'est pas pour mieux comprendre, quitte à revenir au terme sur les deux autres positions, parce que c'est intéressant de saisir la position d'Octave et celle de Platon, chez saint Thomas alors, nous allons avoir cette chose beaucoup plus complexe à saisir, hein, c'est que l'intelligence, quand elle connaît la réalité, elle conçoit au-dedans d'elle-même un concept, un verbe, que nous avions vu à propos de l'appréhension. Hein. Le concept n'est pas l'universel. N'est pas l'universel. Bien différent. Le concept est de l'ordre de l'intentionnalité. Le concept renvoie directement à la réalité. Il signifie la cubité totienne-humaine. En ce qui dit, totienne-humaine. Il signifie la cubité. Il signifie la cubité qui se trouve réalisée dans la règle. Donc il y a un lien direct entre le concept et la réalité. Le concept exprime, signifie la cubité de la réalité, des réalités connues. Mais puisque je saisis cette fluidité selon un mode abstrait, je la saisirai universellement. Alors, l'universel apparaît quand je regarde la relation qui existe entre le concept et les réalités d'où j'ai tiré la fluidité. Ces réalités qui possèdent telle fluidité sont multiples. C'est pour ça qu'on dira que l'universel provient de la multiplicité des choses, et l'universel que j'ai tiré de ces réalités se trouve dans ces réalités, dans son fondement. Le fondement de l'universel de la cuidité se trouve dans ces réalités, et cet universel peut être attribué aux réalités. Et donc j'aurai l'universel dans une triple relation par rapport au monde. Il provient du multiple, il est dans le multiple, il est attribué au multiple. Et ça, c'est Saint-Thomas répond ça. Mais chez Aristote, ce n'est pas du tout schématisé. Chez Saint-Thomas, c'est beaucoup plus, si vous voulez, élaboré. Alors, il y a les trois aspects. Donc, vous voyez, on reprendra ça. Vous voyez comment l'universel n'est pas le concept, mais présuppose le concept. Il est dans la vie de l'intelligence. L'essence, l'essai d'universel est dans la connaissance. La connaissance se fait par un concept qui, lui, exprime la cuidité des choses sensibles. Cette cuidité des choses sensibles n'est pas la réalité singulière, elle est abstraite de ces réalités singulières. Et donc l'universel provient du multiple. L'universel, il est dans le multiple, puisque la cuidité est fondement de ce multiple, et il est attribué au multiple. C'est pour ça qu'on aura unum de multi, unum in multi, unum ad multa. Vous avez les trois relations de l'universel par rapport au multiple. Je reviendrai dessus, parce que ça c'est important de saisir la coupe de l'universel. Je le reprendrai d'une autre manière, non plus par rapport à saint Thomas, mais directement. Qu'est-ce que c'est que l'universel ? Vous voyez ? Et alors, en faisant la coupe critique de l'universel, on retrouvera exactement la même position. Je réponds tout de suite à la question qui est posée ici. D'après Aristote, la métaphysique regarde en premier lieu l'ousia. D'après Aristote, toujours, il n'y a de science que de l'universel. Or, l'ousia n'est pas l'universel. Comment concilier ces deux affirmations ? C'est très juste comme objection. Bon. Alors, je crois que ça fait comprendre justement toute la question de la formalisation de la science et ce que représente la philosophie.
ça qui est très délicat. Hein? Alors, je vais préciser, si vous voulez. Pour Aristote, la métaphysique regarde en premier lieu l'ousia. C'est sûr. La philosophie première est ordonnée à ce qui est en tant qu'être et à rechercher le qui est-ce, qu'est-ce que c'est que l'être. Donc, c'est l'interrogation du qui est-ce pour découvrir les principes propres de ce qui est. Et découvrir les principes propres de ce qui est, c'est la pensée proprement scientifique, puisqu'il n'y a de science que quand on découvre les principes. Or, l'ousia, c'est le premier principe propre de ce qui est. La substance, l'ousia, c'est la substance, n'est-ce pas ? C'est le principe propre de ce qui est. Donc, on entre en métaphysique que quand on a saisi l'ousia. Tant qu'on n'a pas saisi l'ousia, on est un aspect descriptif. On peut rester dans un aspect descriptif. Mais on n'entre pas dans ce que représente la philosophie comme telle. D'après Aristote toujours, il n'y a de science que de l'universel. Alors, il faut faire attention. Il n'y a de science de l'universel. Il ne peut y avoir de science que s'il y a l'universel. Mais la science n'est pas la science de l'universel. Alors ça, je défie de trouver un lieu. La condition sine qua non pour qu'il y ait science, c'est qu'il y ait l'universel. Mais la science ne regarde pas l'universel. La science regarde la conclusion nécessaire. La science porte sur le nécessaire et porte sur une conclusion, puisque la science est propre justement d'impliquer un moyen terme, c'est la connaissance par les causes. Quand je suis en face d'une donnée immédiate qui est évidente, je n'ai pas une connaissance scientifique. Je la saisis ou je ne la saisis pas. J'ai l'intelligence ou l'ignorance pour les principes propres. Mais quand il s'agit de la science, je suis toujours en face d'une conclusion. Donc, je suis en face d'une affirmation qui implique un moyen terme, qui ne peut se donner que par le point de vue d'un moyen terme, donc par le point de vue d'un principe. Alors, la science regarde le nécessaire, pas l'universel. Alors, vous voyez bien. C'est bien comme question. C'est très, parce qu'une question doit être toujours. Il ne faut pas chercher près de sophisme. Mais au fond, une objection, c'est toujours un sophisme. Il y a toujours un sophisme que nous devons essayer de régler. Alors, si évidemment, il n'y a de science que de l'universel, on comprend très bien comment Aristote dit ça, c'est l'aspect tout simplement de la condition. Pas de science, il n'y a pas d'universel. Et la science ne regarde pas l'universel. La science, au contraire, regarde les castones. Elle regarde les castones, elle regarde la réalité existante. Et elle revient toujours à la réalité existante. Mais elle saisit dans la réalité existante ce qu'il y a de nécessaire. Et pour saisir ce qu'il y a de nécessaire dans la réalité existante, elle doit se servir du principe. Non. Si vous voulez, on va décomposer la science telle qu'Aristote la donne pour voir justement l'erreur qu'il y a ici. La connaissance scientifique est une connaissance parfaite qui porte sur une réalité existante. Puisque toujours, la science, pour Aristote, porte sur ce qui est. La science philosophique, et non pas sur le possible. Donc, elle porte sur une réalité existante. Et quand il s'agit de la métaphysique, elle porte sur le soi, ce qui est. Quand elle regarde la philosophie de la nature, elle regarde ce qui est mu. Quand elle regarde le point de vue du vivant, ce qui est vivant, et ainsi de suite. Donc c'est toujours une réalité existante. Mais dans la réalité existante, elle va saisir le nécessaire. Or, la réalité existante, prise en elle-même, est contingente. La réalité existante est contingente. Et il faut découvrir dans la réalité existante ce qu'il y a de nécessaire.
La connaissance scientifique saisit dans la réalité existante ce qu'il y a de nécessaire. Ce que je peux connaître comme nécessaire. Et non pas le fait de la réalité existante qui est toujours contingent. Je n'ai aucune expérience du nécessaire. J'ai l'expérience au contraire du contingent. J'ai uniquement l'expérience du contingent. Mais mon intelligence saisit dans la réalité contingente quelque chose de nécessaire. Ça, c'est différent. Il faut voir à partir de quel moment que naît le nécessaire. Hein? Le nécessaire va naître en premier lieu à partir de l'universel. La saisie d'universel, c'est justement le nécessaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de science sans la saisie d'universel. Puisqu'il s'agit de saisir quelque chose de nécessaire dans la réalité existante, et que le premier moment où apparaît le nécessaire, c'est l'universel. On comprend très bien qu'il ne peut pas y avoir de science sans l'universel. S'il n'y a pas de saisie d'universel, il n'y a pas de science. Puisqu'il s'agit d'avoir une connaissance nécessaire d'une réalité contingente. Donc, ça ne peut se faire qu'à partir de l'universel. Et l'universel, tel que nous le voyons, tel que nous l'étudions, hein, l'universel genre, si vous voulez, hein, n'est pas le seul universel. Il y a un autre universel. Il y a l'universel des principes, des causes, qui sont aussi nécessaires. Et donc, la connaissance scientifique, et je ne peux connaître évidemment le principe que si j'ai un niveau universel, les principes sont quelque chose d'universel. C'est une autre modalité d'universel, mais c'est encore l'universel. Et c'est pour ça que c'est du nécessaire. Donc j'ai les deux niveaux du nécessaire. Il faut toujours bien respecter ces deux niveaux du nécessaire. Le nécessaire au niveau de l'appréhension. Le nécessaire au niveau du jugement. L'universel au niveau de l'appréhension, l'universel au niveau du jugement. Bon. Bien saisir les deux. C'est deux choses différentes. Pas le même médiatité, ce n'est pas le même universel. D'un côté, je suis en face de l'universel en tant qu'il est l'élément simple, et de l'autre côté, je suis en face d'une proposition universelle. Et je vous ai dit que l'universel pouvait se prendre au carré. Devant les affirmations que je vous ai données d'Aristote qui nous montrent que l'universel peut se prendre au carré. C'est pour ça qu'il peut y avoir un jugement universel. Parce que dans le jugement universel, justement, on a un double aspect de l'universel. Il n'y a pas qu'un seul aspect de l'universel. Et donc, c'est l'universel qui se multiplie comme universel. C'est pour ça que c'est l'universel au carré. C'est l'universel second, si vous voulez, ici. Ici, je suis en face de l'universel premier. Eh bien, le nécessaire que la science va chercher présuppose la connaissance des principes, donc présuppose ce premier universel, puisque l'universel des principes implique l'universel de l'appréhension. Je ne peux connaître scientifiquement quelque chose que quand je le connais par le principe. Quand je connais une propriété rattachée au principe. C'est ça le propre de la connaissance universelle. C'est de saisir de la connaissance scientifique. C'est saisir ce lien de nécessité qui existe entre le principe et sa propriété. Alors, à ce moment-là, la connaissance scientifique porte bien sur une réalité existante, une réalité, telle réalité particulière, et dans cette réalité particulière, parce que j'ai saisi le principe propre de cette réalité, je peux saisir sa propriété. Et donc, dans cette réalité contingente, je saisis quelque chose de nécessaire. Et c'est le propre de la connaissance scientifique, c'est saisir une réalité existante par sa cause. L'intelligence par sa cause, je la saisis de l'intérieur. Et je ne la saisis pas seulement de l'extérieur. Si je regarde uniquement la réalité existante en elle-même, je peux la décrire. Mais je reste toujours en face du contingent. C'est le problème qui est au cœur de toute la philosophie. Très curieux de voir que de fait, on voit bien que c'est toujours là-dessus qu'on revient. Comment se fait-il, puisque toutes les réalités que vous voyez sont contingentes, comment se fait-il que vous pouvez saisir du nécessaire dans le contingent? Vous ne pouvez pas saisir le plus du moins. Or, la réalité que vous voyez est contingente.
Comment se dit-il que vous pouvez saisir du nécessaire? Or, vous êtes tous d'accord que le contingent est moins que nécessaire. Alors, comment se fait-il que d'une réalité contingente, vous pouvez saisir quelque chose de nécessaire? Du contingent, on reste en contingent, vous voyez comment? Du conditionné, on reste en conditionné. Donc, je ne pourrai jamais, à partir du conditionné, m'élever à du nécessaire. C'est impossible. Du contingent, je reste dans le contingent. Le contingent, je vous écris, je reste dans le contingent. Alors, comment se fait-il que mon intelligence... Ah, attention, c'est là où on va jouer de l'induction. Qu'est-ce que c'est que l'induction? C'est cette opération particulière du nous qui, à partir des réalités que j'expérimente, en interrogeant ces réalités, va saisir des principes. Et la saisie du principe, c'est, ou de la cause propre, me donne le nécessaire. Vous voyez? Alors je reprends pour répondre à la question. En philosophie première, j'essaie de regarder les réalités existantes du point de vue de l'être. Elles sont ce qui est vu du point de vue de l'être. Et j'interroge ces réalités pour savoir ce qu'elles sont, le qui est qui, qu'est-ce que c'est que le toi-même, qu'est-ce que c'est que ce qui est. Et en interrogeant de cette manière, progressivement, ça dépend de la pénétration de mon intelligence, il y a des gens qui vont très vite au point de vue de l'addiction, et il y a des gens qui vont très lentement. C'est ce qu'on dira des esprits plus intuitifs et des esprits moins intuitifs. Et puis il y aura des esprits qui ne sont pas intuitifs du tout et qui resteront toujours en face de la description. Mais si mon esprit est un petit peu aiguisé, mon esprit arrive à partir de ces réalités que j'expérimente, en les interrogeant, l'interrogation est absolument nécessaire pour l'induction, en les interrogeant, donc c'est le concours de l'expérience et de l'interrogation qui peut me faire comprendre ce que c'est que l'induction. C'est ça qui est très très important. Il y a deux aspects, comme toujours. Hein. Dès qu'il y a un raisonnement, il y a toujours deux aspects. On appuie sur deux prémices, si vous voulez. Alors ici, il y a deux prémices. Hein. Il y a l'expérience et l'interrogation. Alors, mon intelligence interroge en expérimentant et découvre, alors, principe propre au propre, ici, il s'agit de l'ousia. Donc, vous voyez où se situe l'ousia. L'ousia se situe comme un principe propre de ce qui est. L'intelligence saisit l'ousia. L'ousia, elle est dans la réalité, mais elle n'existe jamais dans la réalité comme principe propre. C'est l'intelligence qui saisit dans la réalité le principe propre. Et elle saisit grâce à son interrogation. Dans la réalité, c'est toujours des réalités concrètes qui existent. Hein. C'est l'hécatome, pour prendre le langage d'Aristote. C'est l'hécatome, c'est toujours une réalité particulière. C'est chacun, voilà, j'existe, hein. Je suis un écastone, moi. Je ne dirais pas, regardez-moi, vous comprendrez la substance. Non, non. Analysez-moi philosophiquement, vous trouverez la substance. Ça, c'est très, très... Analysez-moi, mais mon moi n'est pas la substance. Hein. Il faut analyser ce qui est l'écastone, ce qui est ce que chacun existe, et nous découvrons alors les principes propres, l'ousia. L'ousia est contenu dans l'écastone. Il est contenu dedans. Alors, j'aime donc, l'induction, c'est ce procédé par lequel je découvre les principes propres. Là, je suis en face du nécessaire. Le nécessaire apparaît là. Un principe est quelque chose de nécessaire. Un principe est une vérité immédiate. On l'a saisi, on l'a saisi pas. Quand je dis que vous y a un principe selon la forme de ce qui est, ou je saisis vraiment intellectuellement, c'est pas seulement un nécessaire. Je saisis vraiment que l'ousia, c'est la source de toutes les déterminations. Alors je saisis cela à partir de la multiplicité des réalités que je regarde, ou à partir tout simplement de l'écastone, de cette réalité singulière qui est en moi, que je regarde et que je vois qu'en moi il y a beaucoup de déterminations et cependant il y a une unité. Alors à partir de là, je suis obligé de poser, je découvre le principe propre l'ousia. Une fois que j'ai découvert ce principe, le principe est présupposé à la connaissance scientifique. Donc la connaissance de l'ousia est présupposée à la connaissance scientifique. Ça fait partie des présupposés de la science. Donc ne disons pas que la métaphysique, c'est la connaissance de l'ouïe. La métaphysique présuppose la connaissance de l'ouïe. Je n'entre en métaphysique que si j'ai connu l'ouïe. Bon, une fois que j'ai connu cette ouïe, je reviens à la réalité. Et j'ai fait saisir le pôle de ce principe. Comment se trouve réalisé l'ouïe dans cette réalité singulière? Et à ce moment-là, je peux saisir alors la propriété de cette réalité. Je dis que l'ouïe, que cette réalité implique une unité selon sa forme. Et alors à ce moment-là, je saisis la propriété à partir du pôle dans la lumière du principe. Et donc, dans la réalité existante, je peux poser un jugement scientifique. Le jugement scientifique se fait à partir du principe, dans la lumière du principe, pour saisir la propriété. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction dans les affirmations d'Aristote. La métaphysique regarde en premier lieu l'ousia. Je dirais, la métaphysique présuppose la connaissance, la métaphysique en tant que science. La métaphysique en tant que science implique la saisie de l'ousia pour être une science. D'après Aristote toujours, il y a la science de l'universel. L'universel est présupposé à toute connaissance scientifique. Mais la connaissance scientifique porte sur la conclusion nécessaire. Vous voyez bien ça. S'il y a des difficultés, dites-le, parce que c'est important. Si on réfléchit sur l'universel, c'est pour aiguiser un peu notre intelligence. Ce n'est pas tellement pour redire les quantités de choses, mais si vraiment, quand on est au niveau de l'universel, on est au cœur de tout ce que représente une réflexion très profonde sur ce que c'est que l'intelligence humaine. C'est ça que c'est important de prendre de multiples manières. Vous voyez qu'ici, nous sommes partis de la science. L'universel que nous étudions maintenant est pré-scientifique. Que nous saisissons par l'induction, ce sont les principes. Si nous analysons les principes, nous voyons qu'ils contiennent une appréhension. Mais ce n'est pas le même niveau. Alors ça, c'est aussi très important. J'espère que ça il faut arriver à le saisir. Ce n'est pas au même niveau. Là, je vais en dire un tout petit mot pour que vous compreniez mieux. C'est une des questions très difficiles. Mais c'est une question importante sur laquelle il faut réfléchir. Donc, je dis que quand on est au niveau de l'induction, on saisit les principes propres et les causes propres. Je prends tout de suite l'exemple de la métaphysique, puisque c'est là où la science est la plus claire, au lieu d'Aristote, et donc c'est là où je saisis le mieux ce que c'est que la structure d'une pensée scientifique. Au fond, la logique d'Aristote n'est applicable parfaitement qu'à sa métaphysique. C'est très clair. Elle n'est pas entièrement applicable à son éthique, elle n'est pas entièrement applicable à la philosophie d'Aristote. Il n'y a que pour la métaphysique. La science, telle qu'Aristote en soi, n'est parfaitement vraie qu'au niveau métaphysique. Pas du tout au niveau mathématique, comme on l'a dit, comme un blanc l'est. Il n'a pas du tout saisi. Parce qu'il a pris uniquement la formalisation de la logique. Mais en réalité, si je suis attentif à la pensée d'Aristote, je vois que ce n'est qu'en philosophie première, et c'est du reste, il le dit ouvertement. Il dit que la philosophie première est la seule science par excellence. Donc c'est la science par excellence, c'est la science donc qui est là où je trouve le mieux réaliser cette structure profonde de mon intelligence dans sa fécondité. Parce que nous avons dit que le jugement implique la fécondité de la vie d'intelligence. Bon, alors, l'induction me fait saisir les principes. Si j'analyse ces principes, je vois qu'ils sont complexes. Prenez toujours le même principe. La cause, c'est le principe selon la forme de ce qui est. Donc c'est quelque chose de complexe. Je peux donc analyser ce principe et voir que ce principe implique des éléments. Il implique des éléments qui sont au même niveau universel. Donc tout jugement présuppose une appréhension. Et l'appréhension est l'élément du jugement. Quand je suis au niveau du genre et de la différence spécifique, et ainsi de suite, des prédicats, je suis à un niveau
qui n'est pas le même que celui du principe. Je suis à un niveau d'intelligibilité inférieur.
Alors c'est là où c'est très difficile de bien comprendre deux choses. Ce niveau du genre et de la différence spécifique est au niveau de la définition, comme nous disons.
Tandis qu'au contraire, l'induction est au niveau de la cause. Il y a un lien entre la définition et la cause.
Aristote dira, d'une certaine manière, toute démonstration au niveau du début. Toute démonstration au niveau du début.
Toute démonstration présuppose un principe. Donc, de temps en temps, Aristote a l'air de prendre la définition et la cause l'une pour l'autre. Pourquoi ? La définition, qu'est-ce qu'elle regarde ?
La définition, elle regarde tout INNA.
Il y a bien tout le temps, hein. J'espère que vous le saurez, ça. La définition, elle exprime, c'est le logos du toti eneinan. La définition dit ce qu'est la réalité en profondeur, ce qu'est la réalité en elle-même, sa cuité. Elle dit le tien du fait d'exister. Et le tien du fait d'exister, c'est la détermination essentielle de la chose. C'est la détermination primordiale de la chose.
Détermination,
c'est pas la cause, hein. C'est pas le via. Faisons attention. Pour Aristote, il y a une différence entre le totémenal et le via. Alors c'est là que vous commencez à mieux comprendre. La définition, c'est le totémenal. Mais la définition, c'est pas le via, la cause. Alors, toute la différence qui existe entre l'ousia et le dossier vénal, il faut comprendre la différence entre la définition et l'ousia. Ce n'est pas au même niveau d'intelligibilité, mais l'un conduit à l'autre. Pour nous, la définition est première, nous commençons d'abord par définir.
Nous avons pendant un certain temps la maladie de définir. Nous voulons définir toute chose.
C'est très bien d'avoir cette maladie, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais c'est important de vouloir définir qu'est-ce que ça veut dire, de savoir définir la chose, redéfinir. Alors, ça a été la maladie de scolastique.
Scolastique a voulu toujours tout définir, tout définir.
Et alors, elle a ramené les principes à la définition. Hein, je crois que ça a été le coup de foudre.
C'est pas de la définition.
Alors, à partir de là, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité d'entrer dans la métaphysique. Et le point de vue de l'intelligibilité reste au niveau du dossier Neinheim. Alors, la définition donc exprime le dossier Neinheim, l'intelligibilité de la réalité, son tien. L'ousia, le principe et la cause, se rattache à ce qui est. Je peux abstraire la définition de l'existence, je ne peux plus abstraire le principe de l'existence.
Là, vous commencez peut-être à mieux saisir combien le principe
est beaucoup plus profondément enraciné dans ce qui est. On ne peut pas abstraire, on ne peut pas dire l'ousia, c'est l'essence qui n'est pas l'existence.
Non, jamais ça.
L'essence est très volant.
L'essence brise, l'essence est scolastique, distingue de l'essai. C'est le ciel.
Et vous voyez que c'est déjà très très difficile parce que le ciel est impliqué en Toinan. Et le Toinan implique l'essai. Et donc je ne peux pas, je peux abstraire, mais pas séparer. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'ousia, je ne peux même plus abstraire. L'ousia, c'est principe selon la forme de ce qui est. Et donc c'est lié directement à l'existence. Alors comment se fait ce passage de l'un à l'autre? Important. C'est ce que saint Thomas appelle abstraction universelle, abstraction formelle. La définition implique l'abstraction universelle, le point de vue de la cause et du principe, je suis au niveau de l'abstraction formelle. L'abstraction formelle parfaite va impliquer une séparation. Et nous serons au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, je suis au niveau de la séparation. Mon intelligence peut saisir des principes qui pourront exister indépendamment du contingent. Donc, s'il y a deux types d'abstraction, ça prouve qu'il y a nécessairement deux types d'induction différentes. Et par le fait même, il n'y a pas continuité entre les deux. Et je crois que ce qu'a fait la scolastique des cadences, c'était de mettre une continuité entre les deux. Et alors, quand je mets une continuité, Wolf, hein, je prends la scolastique des cadences, prenez Wolf. Wolf est très typique de ça. Parce que ça, c'est tout à fait le point. Wolf, on fait la continuité entre les deux. Alors, je comprends qu'à partir de là, ça devient terrible. Je m'entraîne dans un domaine d'intelligibilité de mes illusions. Et je ne saisis plus de contact avec le point de vue du réel. Et la science devient une déduction au niveau de l'intelligibilité. Et la science n'est plus donc le constat, la recherche de l'Eckhartson pour chercher la propriété nécessaire de l'Eckhartson. Oui. Alors là, j'ai deux niveaux d'intelligibilité différents. Le niveau de la définition, le niveau de la cause. Deux niveaux d'intelligibilité. Comme j'ai de fait deux niveaux universels. Il y a un double universel. L'universel n'est pas le même. Mais l'universel premier que nous devons étudier, c'est le plus simple. Et c'est pour ça que nous regardons d'abord l'universel le plus simple, qui est en relation avec le social inalienable, ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est ce que nous allons voir maintenant. Bon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pour saisir ces choses-là, c'est difficile, c'est complexe, je comprends très bien. Surtout quand on commence, c'est difficile. Quand on est déjà un tout petit peu habitué à cette manière de voir ce que représente le problème foncier de la vie de l'intelligence, alors à ce moment-là, on peut arriver à comprendre ces deux zones de l'intelligibilité. Donc je crois très importante à saisir. La zone de l'intelligibilité qui présuppose une abstraction universelle et la zone de l'universel qui présuppose une abstraction formelle. Il y a une induction des deux côtés. Il y a une induction des deux côtés. Pour ceux qui s'intéressent à la pensée d'Aristote, dans les premiers analytiques, à la fin des premiers analytiques, l'induction est à ce niveau-là, donc au niveau de la définition. À la fin des secondes analytiques, l'induction est à ce niveau-là. C'est très curieux car Aristote nous donne deux fois l'induction à deux niveaux différents. Et saint Thomas, lui, reprend abstraction universelle, abstraction formelle, sans nous dire le lien qui existe entre les deux. C'est ça la très grosse difficulté. Il ne nous le dit pas, il pense qu'on a tous compris. On a tous compris, tellement la définition, c'est pas la cause. C'est pas si comme que ça de bien comprendre que la définition n'est pas la cause. Oui. Parce que quand vous êtes au niveau de la définition, vous êtes au niveau de l'appréhension. Quand vous êtes au niveau de la cause, vous êtes au niveau du jugement. Ne confondons pas appréhension et jugement. Oui. Quand vous êtes au niveau de la définition, vous restez dans l'appréhension. La définition, c'est le fruit de l'appréhension. L'appréhension, alors ça reste toujours un moment, si vous voulez, élémentaire de ma vie intellectuelle. Tandis que lorsque je saisis la cause et le principe, je suis au niveau du jugement. Là, c'est encore une autre manière de le saisir, vous voyez. Il faut voir tous les moyens par où on peut saisir la différence entre le niveau intelligible de la définition et le niveau intelligible du principe. Bon, je passe tout de suite, je continue, si vous voulez, ce que nous avions commencé la dernière fois, n'est-ce pas? Parce que c'est important de faire l'analyse, alors critique, l'analyse philosophique, si vous voulez, de ce que représente l'universel. Nous allons essayer de prendre maintenant l'universel. Quand je prends l'universel, maintenant, c'est l'universel fruit de l'appréhension. Je vous invite, ce n'est pas l'universel au niveau du principe. C'est l'universel dans ce qu'il a de tout à fait élémentaire. L'universel, c'est tout à fait élémentaire dans notre vie intellectuelle. Nous ne pouvons pas penser sans qu'il y ait en nous la formation d'un concept qui implique l'univers. C'est la phase embryonnaire de la vie de l'intelligence. C'est encore très embryonnaire. Hein. La naissance, c'est le jugement. Tandis que le point de vue de l'appréhension, c'est toujours embryonnaire. Hein. Vous portez ça en vous. C'est la gestation, si vous voulez. C'est ça, le point de vue universel. C'est ce point de vue du concept premier de l'appréhension. Dès que il y a la décence, ça s'exprime par le jugement. Le jugement permet la séparation, alors que l'appréhension, nous le portons en nous. Ça, notre langage implique toujours le jugement, hein. C'est pas possible autrement. Et il arrive des moments, vous savez, ça arrive dans notre vie, surtout quand nous passons des examens. On comprend et on ne sait plus le dire. C'est un moment très délicat, ça, et très gênant. C'est une très bonne expérience à faire. Les examens existent pour cela, ce serait très bien. C'est qu'on arrive, on dit, mais oui, je sais, je vois très bien, puis on ne peut pas le dire. Quand vous écoutez une conférence dans une matière, dans une science que vous connaissez très peu, et vous écoutez la conférence, si la conférence est suffisamment bien donnée, vous comprenez. Quand j'écoute un professeur qui me donne un cours de biologie, ça m'intéresse beaucoup. Et je suis incapable de le répéter après. Finalement, je me suis appris par cœur, mais je suis incapable de répéter après. Mais j'ai compris. Vous voyez, la phase de compréhension de l'appréhension est plus le point de vue du jugement. J'ai compris, j'ai saisi, c'était intéressant, j'ai saisi certaines choses pour répéter certains aspects, mais je ne répéterai pas entièrement, je ne pourrais pas. Et surtout, si on m'attaque, je n'arriverai pas à dire exactement le pourquoi. Oui, l'appréhension. Et pour pouvoir le communiquer aux autres, il faut le jugement. Alors, il y a une phase embryonnaire de la vie de l'intelligence. Il ne faut pas oublier qu'Aristote donne cette distinction pour voir le devenir de l'intelligence. Donc la phase embryonnaire de l'intelligence. Et comme ce devenir, il est tout le temps, ce que nous augmentons tout le temps, pour ne jamais dire que nous arrêtons dans la vie intellectuelle. Nous progressons tout le temps. Alors cette phase embryonnaire, elle est toujours. Et plus on avance, plus la phase embryonnaire est forte. Parce que normalement, plus nous cogitons. Alors normalement, la phase embryonnaire est de plus en plus forte, mais il y a toujours une phase embryonnaire en nous. C'est le progrès. Faut pas être autrement.